Bienvenue dans cette merveilleuse nouvelle année, l'année de la complétude. Complétude signifie être complet en toutes choses. Dites, c'est mon année de la complétude. Dites, dans cette année, je marche et je grandis dans la complétude de ce que Dieu a pour moi. Alléluia. Vous marchez dans la complétude, vous augmentez dans la complétude, votre compréhension de qui est Dieu augmente. Il y a 4 points à retenir et nous allons commencer cette année, ce premier dimanche de l'année, avec un exposé sur la complétude. Vous voyez, la Bible est claire que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Osée chapitre 4 et verset 6 nous dit « Car mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. » J'aimerais aussi commencer comme introduction en disant que Dieu n'a pas changé entre 2024 et 2025. C'est nous qui sommes orientés par le Saint-Esprit de comment nous grandissons dans notre marche de foi. Mais Dieu lui-même ne grandit pas. D'accord ? Dieu est déjà parfait. Donc j'aimerais qu'on puisse étudier le premier point. Il y a 4 points que j'aimerais que vous preniez note sur la complétude. Le premier point est reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Dites, je reconnais et je marche dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Prenez Philémon 1:6. C'est votre année de la complétude, amen. Donc vous allez grandir et marcher dans la complétude. Vous voyez, Dieu n'a pas changé en 2024 et 2025. Et vous savez, historiquement, il y a ce qu'on appelle les âges. En anglais, ils appellent ça les Dark Ages. Je ne sais pas comment on le traduit exactement, mais c'est soi-disant, pendant un moment, Dieu n'agissait plus entre les années 600 et les années 1700, quand il y a eu le renouveau et qu'on a commencé à revoir des miracles. C'est-à-dire qu'il y avait les apôtres, vous voyez, les apôtres puissants et forts, qui étaient grands et puissants, qui faisaient des miracles partout. Et ça, ça a duré jusque vers les années 700 environ, avec l'Église qui a commencé à switcher et devenir politique. D'accord ? Au point qu'il y avait deux papes. Vous savez qu'il y avait deux papes en même temps, à un certain moment, dans l'histoire ? Il y avait le pape de Constantinople et le pape de Rome. Peu de gens savent ça. Alors si maintenant on demande à l'Église qui est le vrai pape ? Ah ! Donc oui, ils sont là. Ok, c'est vrai que dans les années X, Y, il y avait deux papes. Vous voyez ? Donc l'Église a switché et ensuite on est rentré dans ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment le traduire exactement, en anglais ils appellent ça la période Dark Ages, mais si on traduit temps ténébreux, je ne pense pas que c'est l'expression historique d'époque qui est utilisée en français, mais on parle de ça comme si Dieu s'était endormi pendant quelque temps, jusqu'un jour où l'Église catholique, qui d'ailleurs n'a pas que du mauvais, sachez-le, hein. Souvent les évangéliques, on a cette tendance à dire « Ah, tous les catholiques, non, non, non ». L'Église catholique était là au niveau historique et l'évolution naturelle qui a suivi des apôtres. Ce qui ne veut pas dire que l'Église catholique est dans la vérité, forcément. Et l'Église catholique avait commencé à vendre le pardon. Ils vendaient le pardon dans les années 1600 et poussière. Même avant, ils vendaient le pardon. C'est-à-dire que quelqu'un faisait un péché et l'Église leur disait, voilà, si tu veux être pardonné et rentrer au ciel, tu dois payer X montant pour recevoir l'indulgence. Parce qu'à la base, l'indulgence, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la doctrine catholique, était sur la base de prière. C'est-à-dire, on fait tel péché, on fait telle prière, et Dieu nous pardonne. C'est un peu l'idée. Et ensuite, ils ont commencé à vendre cela à la place de payer son indulgence, entre guillemets, avec des prières. On l'a payé avec de l'argent. Et là, il y a un monsieur qui a dit, bon, là, c'en est un peu trop. Voici 99 raisons pourquoi l'Église catholique est en tort. Et il a écrit ça sur la porte de sa paroisse. C'était Martin Luther. Et il a commencé à dire, attention, attention. Il a dit plusieurs choses merveilleuses. Il a dit, attention, l'évangile ne peut pas être vendu. Jésus-Christ est la position finale. Les paroles du pape doivent être soumises à la parole de Dieu écrite. C'est quelque chose qui vous paraît peut-être normal pour vous, mais à l'époque, si le pape disait quelque chose et que la Bible disait autre chose, on croyait le pape et non pas la Bible. Vous voyez un peu l'idée ? C'est quelque chose dont, par exemple, la Bible dit que croire au Seigneur Jésus, c'est une œuvre de foi, et le pape et son armée forçaient les gens à croire. Et on leur disait, mais ils ne sont pas sincères, les gens, ils sont forcés à croire. C'est une démarche de foi. Donc il y a Martin Luther, et de là a été lancé ce qu'on appelle la réformation, ou la réforme, ça dépend comment ils le traduisent, qui fait qu'on a commencé à explorer les écrits eux-mêmes, et ça a lancé William Tyndale et Gutenberg, qui ont fait la Bible en anglais et en allemand, qui étaient des langues communes de tout le monde. Et donc ensuite, le roi d'Angleterre, George de tête 5, mais je ne suis pas sûr que c'est George 5, peut-être George 4, ou George quelque chose en tout cas, a dit, je vais rendre la parole de Dieu, la Bible, obligatoire partout, en anglais. Et donc les gens commençaient à lire la Bible encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens commencent à lire la Bible? Eh bien, Dieu commence à toucher leur vie. Mais vous voyez, ce n'était pas Dieu qui les retenait de marcher dans ce qu'ils avaient pour eux. Et donc là, on a commencé à avoir des émergences de grands personnages divins. Par exemple, Jeanne Guillon, qui était une sœur. Je ne sais plus si elle était protestante ou catholique, mais elle, c'était une sœur, une bonne sœur, vous voyez. Elle a commencé à étudier la Bible à une telle profondeur, et elle a commencé à manifester la puissance de guérison de Dieu, ce que les gens n'avaient jamais vu, au point qu'ils l'accusaient de sorcellerie. Ils disaient, mais comment cette femme peut juste toucher les gens un par un et les gens sont guéris? Et ils disaient, c'est de la magie, elle fait de la magie, tuons-la. Et ils l'ont torturée. Et c'était ça, c'est, non, elle a écrit un livre qui s'appelle Connaître les profondeurs de Jésus-Christ, qui parle des mêmes vérités que nous, on commence à parler, vous voyez un peu l'idée. Et c'est quelque chose de phénoménal, parce que ça, c'est historique. Elle a été emmenée dans une espèce de tour, torturée pendant plusieurs années. Ensuite, ils lui disent, bon, c'est bon, elle a payé son truc, elle peut sortir. Elle sort, elle se lève, elle va prêcher tout de suite. Rien ne l'arrête. Dites rien ne m'arrête non plus. Et donc, ça a commencé à donner ces personnages qui étaient. Et vous voyez, ça a culminé, culminé, culminé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que Dieu, pendant ces 1000 ans presque, où on a l'impression que Dieu ne parlait pas, que la parole de Dieu était rare, c'est les gens qui ne marchaient pas dans ce que Dieu avait pour eux. C'est pas Dieu qui a dit, oh, bah, soudainement, dans les années 1700, 1600, hop, on va lancer la réforme pour que les gens commencent à se convertir. Non. Ça a pris des hommes et des femmes courageux, comme William Tyndale, qui, au péril de sa vie, littéralement, qui a été brûlé, rappelez-vous, hein. Martin Luther, il a réussi à en réchapper parce qu'il y avait une bisbille entre l'Église catholique et l'Allemagne. Et le roi d'Angleterre aussi. Donc ça fait qu'il n'a pas pu, il n'a pas été, ni d'ailleurs Martin Luther. Martin Luther n'a pas été mis à mort, hein, sachez-le. Il est mort naturellement. Donc il y a des gens qui ont payé au prix de leur vie le fait que vous et moi maintenant marchions dans les derniers temps de l'Église de Jésus-Christ avec autant de connaissances. Autant de connaissances. Parce qu'il faut savoir que tous ces gens courageux comme William Tyndale, dont je suis en train de lire la biographie, qui a commencé à traduire la Bible, un des effets directs, c'est que la société a été influencée au point que les gens apprenaient à lire avec la Bible. Vous savez ça? Les gens, ils apprenaient à lire avec la Bible. Donc les gens, ils lisaient que la Bible. C'était le seul ouvrage vraiment disponible, parce qu'à l'époque, imprimer des livres et tout ça, c'était pas comme aujourd'hui, vous voyez. Et donc, les gens ont commencé à lire. Et ça a commencé à façonner notre société. Au point qu'aujourd'hui, dans notre société, les gens jouissent constamment des principes divins sans même le voir. Vous savez que dans des pays, l'AI n'existe pas. Hein. Vous êtes malade, vous mourrez. Hein. Vous savez ça. Il y a des pays où si vous êtes malade, s'il n'y a pas votre famille qui s'occupe de vous, vous êtes condamné à mendier dans la rue. Hein. D'accord? En Suisse, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des principes chrétiens qui ont été appliqués. Donc j'aimerais que vous reconnaissiez et qu'on soit reconnaissant envers le Seigneur pour ça. Parce que le fait que nous, on commence à marcher dans cette complétude et qu'on s'approche de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement, vous voyez? C'est aussi grâce à ces hommes et femmes qui nous ont précédés et qui ont été courageux de faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent sur terre. Vous vous rendez compte, pendant 1000 ans presque, dans l'ère de l'Église, l'ère la plus glorieuse de l'histoire de l'humanité, pendant presque 1000 ans, sur les 2000 ans qu'on avait, le Seigneur n'a pas pu faire ce qu'il voulait sur terre parce que personne n'était disponible pour prendre la responsabilité. Vous vous rendez compte? Jusqu'un jour, ça allait tellement loin, la méchanceté des représentants, entre guillemets, de Dieu, de vendre le paradis. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Vendre l'accès au ciel. C'est ce qu'ils faisaient. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église est devenue extrêmement riche, l'Église catholique. Parce qu'ils ont vendu, vendu, vendu. Et les gens se ruaient sur ça. Hein. Ils donnaient toutes leurs économies, toutes leurs fermes, tout leur terrain pour pouvoir recevoir le pardon de la part du pape. Et tout d'un coup, il y a un gars qui a dit, c'est fini, j'en ai marre. Donc j'aimerais que vous reconnaissiez que Jésus-Christ, Dieu n'a pas changé entre deux. De la même manière qu'il voulait qu'on marche dans la plénitude aujourd'hui, dites ma complétude. De la même manière qu'il voulait que vous marchiez dans la complétude, qu'on marche dans la complétude aujourd'hui, était la même manière qu'il le voulait à l'époque. Mais Dieu, bien qu'il soit hors du temps, est conscient que nous, on est dans le temps. Vous voyez, que nous, on vit dans une progression. Il est conscient de ça. Tout comme un parent qui est adulte et affermi dans son humanité, est conscient que son enfant, bien qu'il soit 100% humain, doive grandir dans la connaissance, qu'il doit marcher. Imaginez si demain un bébé naît et on lui dit comment ça se fait que tu n'aies pas de travail. Un bébé, ce serait complètement incohérent. Comment ça se fait qu'il ne marche pas? Comment ça se fait qu'il nage pas? Comment ça se fait qu'il ne parle pas? Il a seulement 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Ce serait incohérent. Pourtant, il est humain, il est 100% humain. Non, vous êtes d'accord que ce sera incohérent. Donc on a trouvé Philémon 1,6, regardez. En sorte que ta communion dans la foi opère, donc votre foi est censée opérer. Dites ma foi opère. Mais regardez, il dit bien en reconnaissant. Donc votre foi, elle doit opérer. Regardez bien, regardez bien. Écoutez, hein, vous écoutez tous. Votre foi doit opérer en reconnaissant tout le bien qui est où ? En nous, à l'égard de Jésus-Christ, du Christ Jésus. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de vous se trouve une multitude de biens, mais c'est intéressant parce qu'il a dit, il faut reconnaître ce bien, ce qui veut dire que ce n'est pas une connaissance acquise automatiquement. Le fait, regardez, le fait que vous ayez quelque chose à l'intérieur de vous ne veut pas dire que vous le savez. C'est pourquoi il a dit, reconnais ces choses qui sont en toi. Dites, je reconnais les choses en moi. Donc là, et souvent, on voit ça chez les chrétiens, où ça s'exprime par des paroles d'incrédulité constante. J'y arrive pas. Vous voyez ? J'y arrive pas. Ah, ça, je suis pas sûr que je peux. Ouais. Ou ah, j'ai pas encore l'argent pour ça. Vous voyez ? Et tout ça, c'est en contradiction avec la réalité qu'à l'intérieur du chrétien se trouve tout le bien. Regardez, parce qu'on lit ça un petit peu, tout le bien, ah, toutes ces bonnes choses. Il a dit tout le bien. Tout. Ça veut dire que l'entier du bien a été incorporé à l'intérieur de nous. L'entier de la bonté a été incorporé à l'intérieur de notre esprit. Mais ça prend que le chrétien doit le reconnaître. Vous comprenez ça ? Dites, je reconnais. Et le chrétien doit reconnaître cette réalité et ensuite opérer avec cette connaissance de cette réalité-là dans la foi. C'est pas, et c'est ça le truc, c'est je manque de foi. Non, on manque pas de foi, on manque de connaissance. Pasteur Christ l'a dit hein, pendant le culte de Nouvel An, allez à l'église cette année. Il a dit, je sais, certains d'entre vous, vous n'allez pas à l'église. Il a dit, allez à l'église. Allez à l'église, c'est là que vous allez commencer à reconnaître. Et regardez, le terme reconnaître, c'est le terme grec épignosis. Et en fait, c'est intéressant parce que le grec, vous savez qu'on parle une langue, plusieurs langues, on se rend compte que certaines idées sont plus faciles à transmettre dans une langue qu'une autre. Par exemple, la manière dont on parle, notre langue, la structure grammaticale, verbale et temporelle de notre langue, nous donne une vision du monde légèrement différente que d'autres. Par exemple, dans notre langue latine, nos langues latines et germaniques modernes, les structures temporelles, les verbes, c'est passé, présent, futur. Vous voyez ? Donc, on dit, je mangerai, j'ai mangé, je mangeais, je mange. Vous voyez ? Dans certaines langues, cette distinction n'existe absolument pas. En chinois, ou en arabe, ou en hébreu, ces distinctions du verbe passé, présent, futur n'existent pas. Donc, ils indiquent le passé, le présent, le futur dans leurs actions d'une manière complètement différente. Vous voyez ? C'est assez intéressant, ça. Donc, par exemple, aussi, si je dis la machine, la veste de Christelle, en français, on parle de la veste et on met sur Christelle le fait qu'elle possède. Tandis que dans la langue, comme le grec ancien qu'on étudie maintenant, c'est assez intéressant, c'est qu'on ne va jamais dire la veste de quelqu'un. On dit veste Christelle et le fait qu'à Christelle, on met une certaine terminaison, c'est Christellou, il dirait, veut dire que la veste est à Christelle. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc c'est une structure de langue qui est complètement différente de la nôtre, ce qui fait qu'on arrive à étudier les textes bibliques d'une manière beaucoup plus profonde, parfois en grec. Par exemple, en grec, c'est assez intéressant, on dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », comme Sacha nous a lu dans la Rhapsodie. Mais en grec ancien, c'est très intéressant, l'ordre des mots n'a aucune importance, presque. Aucune. On peut dire « Dieu, le monde tant aimé, son Fils envoyé ». Vous voyez un petit peu l'idée ? Parce qu'en fait, la terminaison du mot nous dira s'il s'agit du sujet, du complément de phrase, du verbe. C'est la terminaison qui nous indique ça. Donc, quand on étudie ça, c'est l'ordre des mots, en fait, définit l'importance qu'on veut donner à telle unité dans la phrase. Donc, s'ils disent « Dieu a tant aimé le monde », mais si vous regardez en grec, c'est marqué « le monde Dieu a tant aimé ». Donc, l'auteur, il met l'accentuation sur le fait que Dieu a aimé le monde. Vous voyez un peu l'idée ? Donc là, on va regarder juste avec épignosis. Épignosis, à la différence de gnosis, qui veut dire une connaissance, épignosis nous parle d'une connaissance approfondie, une connaissance intime. Dites, j'ai une connaissance intime de ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Je vais vous lire la définition. Contrairement au simple mot gnosis, qui désigne la connaissance générale ou intellectuelle, épignosis implique une connaissance plus complète, précise et intime. Elle suggère une compréhension plus profonde et une reconnaissance spirituelle ou personnelle. Alléluia, regardez ça. Connaissance expérientielle. Ce mot inclut souvent une dimension pratique ou expérientielle. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais écoutez bien, donc épignosis, mais de vivre et d'expérimenter cette connaissance. Alléluia, dites j'expérimente la connaissance de toutes les bonnes choses qui sont en moi. Et ensuite, un troisième commentaire, dans les textes du Nouveau Testament, épignosis est souvent utilisé pour parler d'une connaissance spirituelle de Dieu, de sa volonté et de la vérité qui est en Jésus-Christ. Cette connaissance est éclairée par la révélation divine de l'Esprit-Saint. C'est beau ça, hein ? Ok, Romains, prenez s'il vous plaît Colossiens 1, 9 à 10. Regardez, Colossiens 1, 9 à 10. Donc il dit, vous devez, la première chose de cette année, c'est reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Amen. Dites, je marche dans la plénitude. Parce qu'au préalable, j'ai reconnu ces bénédictions. Voilà. Colossiens 1, 9 à 10. Oh, c'est parfait, merci. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Regardez, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas juste « Seigneur, révèle ta volonté » Non, on prie pour que la personne soit remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que si vous connaissez la volonté de Dieu et qu'elle déborde de l'intérieur de vous, vous allez l'accomplir. Mais notez que s'il prie pour des chrétiens, qu'ils connaissent la volonté de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Regardez, « En toute sagesse et intelligence spirituelle », verset 10, pour marcher, oh regardez, si vous voyez un chrétien qui ne marche pas d'une manière digne de l'appel de Dieu, priez pour que la connaissance de la volonté de Dieu se manifeste en cette personne et parlez-lui, pour lui plaire à tous égards. Donc il est possible de plaire à Dieu à tous égards. Dites, je plais à Dieu à tous égards. Oh regardez ça, portant du fruit en toute bonne œuvre, constamment on porte du fruit. Vous portez du fruit dans vos finances, vous portez du fruit dans votre gain d'âme, vous portez des fruits dans votre gentillesse, vous portez du fruit dans l'impact que vous avez sur la société, vous portez du fruit, dites je porte du fruit. Mais tout cela est posé sur le fait de connaître et reconnaître les pleines bénédictions qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que l'église est importante, c'est pour ça que les rendez-vous spirituels sont importants. Parce que vous apprenez que vous avez ces bonnes choses en vous. Vous avez des bonnes choses à l'intérieur de vous. Et même si on regarde bibliquement, il dit tout le bon. Il dit au singulier. Comme si le bon dans son ensemble était mis à l'intérieur de nous. Et c'est le cas. Ok, continuons. Ephésiens 4, 13. Et 4, 24 pour plus tard. Ephésiens 4, 13 et 4, 24. Donc on a dit, le premier point, c'est reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Nous sommes censés marcher, mais d'abord nous devons reconnaître. À l'époque des GPS, avant les GPS, pardon, les gens demandaient leur chemin. Comment aller à un endroit si vous ne savez pas le chemin ? Vous devez reconnaître quelque chose et ensuite marcher dedans. Regardez ce qui est dit. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Donc vous devez grandir et arriver à la stature de la plénitude du Christ. L'enfant de Dieu peut grandir dans la plénitude de Dieu, la plénitude du Christ. Qui était Christ ? Visualisez qui était Christ. Regardez. Si on peut juste avoir le verset 24, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est possible. Donc là, dans la même... Il continue. Donc là, on était au verset 13. Merci, Angèle. Et après, il dit « Et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu. » Littéralement, c'est créé selon Dieu. Ça veut dire créé pour être comme Dieu. Créé comme une photocopie de Dieu. État parfait, copier-coller de Dieu. Dites « Je suis un copier-coller de Dieu. » Mais vous devez vous rendre compte que la responsabilité de revêtir cette réalité incombe à vous. Et comment est-ce qu'on peut revêtir un vêtement sans savoir comment on met un vêtement ? Vous savez, c'est quelque chose, la première fois que j'ai dû mettre un vêtement typé africain, ça vous dit quelque chose ? C'est longue robe. J'avais aucune idée comment ça se met. C'est pas comme nous, on a l'habitude, on met un pantalon. C'est une espèce de couverture qu'on doit tourner autour. Vous avez déjà vu, hein ? Mesdames, c'est la même chose. Les vêtements africains pour femmes sont très différents à mettre que les nôtres. Vous voyez ? Ils sont différents à mettre que les nôtres. Vous savez, ces vêtements, mesdames qui sont déjà allées en Afrique, c'est des vêtements, en fait, c'est une longue chose et on doit le tourner autour de soi, comme ça. Et c'est lourd, ça je savais pas, ok, vous voyez, comme quoi, apparemment c'est lourd. Donc vous voyez, on doit revêtir ce nouvel homme, et ce nouvel homme a été créé en Jésus-Christ, vous comprenez? Et le but du chrétien, la marche chrétienne consiste à remettre, permettez-moi de préciser, la marche chrétienne personnelle. Parce qu'il y a une marche chrétienne, et c'est l'erreur de, comme je vous avais dit pour corriger, de la prière de foi. C'est qu'on dit, vu que j'ai tout en Jésus-Christ, quand je prie par exemple pour mes amis, ou quand je prie pour le monde, je commande aux choses d'arriver. Alors, il y a un aspect juste dans ce point-là, mais en tant qu'enfant de Dieu, l'exercice du ministère de foi est différent que la vie personnelle de foi. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous revêtez le vêtement de Dieu. Vous revêtez ce nouvel homme. Mais par contre, quand vous priez pour d'autres personnes, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à mettre ce nouvel homme. Mais vous priez pour que ça... Vous demandez au Seigneur, et là on demande au Seigneur. Parce que souvent les gens disent, mais Joachim, si j'ai tout en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que je demanderais? Non, on a tout en Jésus-Christ par rapport à l'héritage qu'il nous a laissé. Vous voyez l'idée? L'héritage. Mais par exemple, quand vous priez pour vos parents, quand vous priez pour les autorités, quand vous priez pour les gens que vous voulez amener à Christ, on ne dit pas, dans le nom de Jésus qu'il soit sauvé. On dit, Père, dans le nom de Jésus, oriente les circonstances pour qu'il soit sauvé. Père, dans le nom du Seigneur Jésus, que ton esprit soit fort sur eux pour les convaincre. Par contre, quand il s'agit de l'héritage en Jésus-Christ que nous avons reçu, c'est à nous de juste mettre le manteau. C'est pour ça que quand vous priez pour la santé, vous ne priez pas en disant « Seigneur, guéris telle personne. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, étends ta main du ciel et touche-moi. » Ça, c'est les prières fausses, d'accord? On ne prie pas ça en tant qu'enfant de Dieu. Par contre, si on prie pour une autre personne, et c'est là la différence entre la prière de foi et la prière d'intercession. Dites, je grandis dans la connaissance, alléluia. Une fois, on aura une discussion sur les différents types de prières. Parce que la prière de foi, par exemple, on dit une fois. Une fois. On dit dans le nom, on se prépare, en fait, on construit, on va dans la parole. Une prière de foi, c'est une proclamation de foi qui se dit une fois, qui est libérée dans l'esprit et c'est fait. Et elle porte du fruit. Des fois, le fruit prend du temps à se manifester, mais justement, on ne revient pas dessus. C'est-à-dire, par exemple, si vous priez pour un montant spécifique d'argent, prenons cet exemple. Hein. Vous êtes d'accord, je vous donne ces petites nuggets, si j'ose dire. Gloire à Dieu. Quand vous priez pour un montant d'argent, c'est une prière de quoi? De foi ou c'est une prière d'intercession? Vous pensez quoi? De foi. Pourquoi? Parce que ça concerne ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre esprit comme héritage. Donc, on utilise ce que Dieu nous a donné comme outil pour commander à l'argent de venir, n'est-ce pas? Donc, qu'on fait quoi? On va prendre Ecclésiaste 10, 19 qui dit que l'argent répond à tout. On va prendre Jacques chapitre 5 qui dit que l'argent crie à Dieu pour être utilisé d'une manière juste. On prépare sa liste. Et la Bible dit qu'on est précis. Je veux tel montant. Ok, vous voulez 50 000 francs. 50 000 francs. Vous dites au nom du Seigneur Jésus, quels sont les principes spirituels minimum? Donc là, vous dites, ok, la Bible est claire. Dites la Bible est claire, parce que la Bible est claire. Quel est le minimum qu'on doit donner quand on reçoit de l'argent, bibliquement? 10%. Donc, imaginez que vous avez un besoin de 50 000, on a dit. Hein. Donc, c'est 50 000. Quel est le minimum qu'on doit mettre de côté, bibliquement? Non, non, le montant, le pourcentage, pardon. Non, mettre de côté, mettre en épargne. 20%, bibliquement. D'accord? Dès qu'il y a de l'argent qui vient, 10% à donner, 20% en épargne. Ça, c'est la Bible hein, qui dit ça. Donc, imaginons que vous avez besoin de 50 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander 50 000? Non, vous allez demander plus. Vous allez demander à peu près 65 000. Environ 30% de plus, exactement. Donc ça veut dire que les 50 000 représentent 70%, n'est-ce pas? Donc vous construisez ça, c'est la prière de foi, vous voyez? Vous construisez ça, vous dites, ok, et là vous dites, dans le nom du Seigneur Jésus, je commande à ces 68 000 les poussières de venir à moi, dans le nom du Seigneur Jésus, pour... et ensuite vous détaillez, pourquoi vous avez besoin de 50 000? Vous avez besoin de... Et là vous détaillez, vous dites, dans le nom du Seigneur Jésus, je commande à cet argent de venir à moi, et vous ne le dites plus jamais. Vous le dites une fois et c'est fait. Et vous opérez dans la foi, tout de suite. On opère dans la foi. Et là, on ne parle pas au Seigneur, vous voyez? Ce n'est pas une prière continuelle. Vous voyez? C'est comme pour la santé divine. Vous allez voir. Vous dites, ok. Et là, une fois que vous avez fait cette libération de prière, ce que vous faites, c'est que vous marchez dans la foi en accord avec ce que Dieu a dit à ce sujet et ce que vous avez proclamé. Donc vous dites, ok, je suis riche, alléluia, je me réjouis déjà. Vous visualisez ce montant arriver dans votre compte, vous voyez? Par contre, quand il s'agit de la prière pour les autres, là, c'est autre chose. Mais on en parlera une autre fois. Vous êtes d'accord pour qu'on avance un petit peu sur la complétude? 1 Jean 4, 17. Celui-là, vous devez le connaître par cœur. Mais dites, j'ai été créé pour être comme Dieu. Et l'œuvre du chrétien, c'est de revêtir cette réalité. Revêtir cette beauté. Vous voyez, le nouvel homme créé selon Dieu. Tout le monde ici est né de nouveau. Ce qui veut dire que vous avez un nouvel homme de l'intérieur de vous. Vous le sortez, vous le mettez. Regardez bien. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. Vous le connaissez par cœur, c'est que... Tel il est, lui, tel nous sommes dans ce monde. Notez qu'il n'est pas marqué tel il était lui avant d'être glorifié. C'est tel il est lui maintenant, au ciel, glorifié, tel nous sommes dans ce monde. Dites tel il est, tel je suis dans ce monde. Alléluia. Point 2. Le premier point, c'était reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'évangile. Alléluia. Point 2. Marcher dans la plénitude de Christ. Éphésiens 3, 19. Point 2. Marcher dans la plénitude de Christ. Parce que marcher dans la plénitude, reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'évangile concerne votre vie chrétienne personnelle. Votre foi, votre marche de foi, votre marche de prière, toutes ces belles choses, n'est-ce pas? Mais quand on parle de marcher dans la plénitude de Christ, on parle de marcher dans tout qui est Christ. Amen. Éphésiens 3, 19. Parce que Christ est la plénitude elle-même. Dites Jésus-Christ est la plénitude. Donc, on doit marcher. Et de reconnaître et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc quand vous connaissez l'amour, vous marchez dans toute la plénitude de Dieu. Vous faites l'effort de faire ce qui est juste. Amen. Colossiens 2:10. Alléluia. Colossiens 2:10. Et c'est là que j'aimerais vous montrer la légère différence entre le point 1 et le point 2. Parce que vous dites, mais au final, la plénitude de Jésus-Christ, c'est la plénitude de l'évangile. Oui, bien sûr. Mais la plénitude de l'évangile, dans ce cadre-là, parle surtout de votre connaissance de vous, de qui vous êtes en Christ. Mais là, on parle de l'exercice ministériel de l'Église sur terre. Vous êtes censé exercer un ministère sur terre. Et c'est pourquoi ce point-là est supérieur au premier. Parce que le premier vous assure la possibilité de le faire. Et vous êtes accompli en lui, qui est le chef de toute principauté et toute autorité. Accompli, ça veut dire que vous êtes parfait. Vous êtes dans la complétude. Amen. Dites, je suis dans la complétude en lui. Alléluia, vous êtes prêts? Oh, alléluia. Éphésiens 1, 21 à 23. Éphésiens 1, 21 à 23. Alléluia, vous êtes prêts pour les points qui suivent, hein? Le premier point, c'est reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'évangile. Numéro 2, c'est reconnaître, ou plutôt marcher dans la plénitude de Christ, plutôt. Regardez. Donc, Jésus-Christ, au-dessus de toute principauté et autorité, et puissance, et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée. Donc c'est l'Église. Ça veut dire que Jésus-Christ est chef de toute chose pour le bénéfice de l'Église. Ok, continuons. Verset 23. Et qui est son corps, donc l'Assemblée, ça veut dire l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tous. Donc il dit l'Église est la plénitude de Jésus-Christ qui remplit toute chose dans toute personne. Ce qui veut dire que Christ passe par l'Église pour remplir les gens de toutes bonnes choses. Dites, j'exerce le ministère que Christ m'a confié. Éphésiens 5, 30. Alléluia. Dites, je suis prospère à tous égards. Alléluia. Et c'est là qu'on avance dans cette réalité. C'est là qu'on se laisse guider dans cette réalité. Amen. Qu'on se laisse former dans cette réalité. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Vous êtes le membre du corps de Christ. La chair de Christ, c'est vous. Les os de Christ, c'est vous. Vous êtes la manifestation de Christ sur terre. Dites, je suis la manifestation du Christ sur terre. Mais si vous ne le savez pas, comment allez-vous agir en conséquence? Si vous ne le savez pas. Vous savez, on a dans notre société des gens qui s'ennuient. Des gens sans personnalité, sans rien à plaire au niveau humain, qui vont trouver toutes sortes de folies pour essayer de justifier leur pathétique existence sans Dieu. Et ils vont faire ça au travers de trucs débiles, genre. Il y a plusieurs genres, il y a plusieurs sexes différents. Mais il y en a deux. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un monsieur qui a été faire un reportage en disant « Qu'est-ce qu'une femme ?» Et il a posé la question à des gens de tout horizon. « Qu'est-ce qu'une femme ?» Et la plupart des gens en Occident répondaient « Une femme, c'est un adulte humain femelle. » Oui, simple. Sinon, c'est une fille, une petite fille, vous voyez un peu l'idée. Et il a été demandé au professeur de théorie du genre et tout. Alors, une femme, c'est une personne qui s'identifie comme une femme. Ce qui, bien sûr, en soi, est une définition circulaire. C'est quelque chose qui est faux. On ne peut pas dire une femme, c'est une femme. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, une table, c'est une table. Non, c'est quoi une table, précisément? Et ensuite, il va vers les tribus africaines reculées et il pose et dit, il commence à jouer avec les exacts termes que les professeurs d'extrême gauche utilise, et il dit, c'est quoi une femme? Puis le gars lui explique, en gros, il faut regarder la plomberie de la personne. Si elle a un tuyau, c'est un homme. Si elle n'en a pas, c'est une femme. Et donc il explique ça. Et après il dit, et c'est quoi, que tu penses des trans? Et en fait, c'est marrant parce que le chef de tribu africaine ne comprend pas le terme. Il dit, mais je comprends pas, ça veut dire quoi un homme qui devient une femme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas saisi. Et sincèrement, il comprend pas. Il comprend pas le concept selon lequel une personne décide de devenir une femme. Parce que pour eux, c'est clair, une femme, c'est une personne qui a des chromosomes X, Y, non, XX, excusez-moi, et un homme XY. Simple, simple. Ils se prennent pas la tête. Donc vous voyez que leur manque de connaissances, pour le coup, positives à ce sujet, fait qu'ils sont inconscients de ces mensonges. Mais imaginez-vous si vous êtes inconscient de la vérité qui est en Jésus-Christ. À côté de quoi vous pouvez passer? C'est comme une fois un homme de Dieu que je connais. Il n'avait aucune conscience que la méchanceté organisée existait. Pour lui, la méchanceté, c'était lire un gros. Vous savez, dans les toilettes à l'école, il y a des gens qui écrivent des gros mots, des fois, ça vous dit quelque chose. Et lui, pour lui, la méchanceté, c'était de lire le gros mot. Oh, si quelqu'un écrivait un gros mot sur les toilettes, mais ça faisait la une du journal du lycée, hein, je peux vous dire, parce qu'il n'y a personne qui faisait ça. Et une fois, il va à New York. Il n'était jamais allé en dehors de son petit village. Il va à New York. Et il n'arrive pas à dormir parce qu'il y a un léger décalage horaire. Il dit, bon, je vais aller dans la rue prêcher l'évangile. Et il sort au milieu de la nuit dans New York et il voit des motards et des prostituées. Et il nous a expliqué qu'il n'avait aucune idée ce que c'était une prostituée. Il comprenait le principe logique, mais il n'avait pas aucune idée. Donc il va vers elle, il commence à distribuer des tracts. Après, il va vers des chefs de gang tatoués jusqu'en haut, avec sur les grosses motos là. Et il fait, ah, pour vous. Et en fait, les gars étaient très sympas avec lui. Ils étaient là, ah ben, il est chouki, quoi. Merci, mec. Et ensuite, il y a un mec qui vient, puis il lui fait, hey, elle te plaît, cette fille? Parce qu'il parlait avec une prostituée de Jésus. Et puis il fait, ouais, elle est jolie. Il fait, ah, ouais, ben, tu sais, pourtant, tu peux l'avoir pour une nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et le gars, il comprenait pas. Il disait, mais ça veut dire quoi, avoir une femme? Tu veux dire quoi par là? Et en fait, le proxénète, il en avait tellement marre qu'il a fait, bon, c'est bon, je me casse. Et il s'en est parti comme ça, en balayant la main. Et ensuite, il raconte l'histoire qui lui arrivait à des hommes plus âgés. Ils disent, mon gars, à part ça, je crois que t'as pas compris. Hein, c'était des prostituées, les filles. Puis il était là, non, c'est pas possible. Non, non, vraiment, mais non. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas du tout la conscience que quelque chose de mal pouvait lui arriver en allant vers ses chefs de gang. Donc il va vers les chefs de gang, enfin chef, membre de gang plutôt, et il donne, hop, c'était pas des rhapsodies, mais l'équivalent, vous voyez, il donne la parole au Dieu, bonjour, vous voyez, c'est quand même marrant, hein. Aucune conscience, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la conscience du danger. Est-ce que vous avez la conscience de Christ en vous? Alléluia, dites j'ai la conscience de Christ en moi. Troisième point, nous accomplirons la prédication de l'évangile dans toutes les nations, Romains 15, 19 à 23. Alléluia! Ça doit vous réjouir. Pourquoi? Parce que la prédication de l'évangile dans toutes les nations signifie que Christ revient, oui, mais avant que Christ revienne, il y a quoi? C'est juste. Ah oui, il y a cet aspect-là qui est très beau. Mais au niveau calendrier, c'est un peu ce que Natacha a commencé à soulever. L'enlèvement de l'Église, exactement. Qui est d'ailleurs censé être une gloire. On n'est pas censé être enlevé par Jésus-Christ pour échapper à notre misérable vie. Hein. D'accord? L'enlèvement est censé être une fête, amen. Mais maintenant, n'ayant plus de sujet de m'arrêter dans ces pays-ci, j'aimerais juste qu'on prenne très spécifiquement cette phrase. N'ayant plus de sujet de m'arrêter dans ces pays-ci, littéralement, c'est ayant couvert ces pays de Jésus-Christ. Ayant couvert ces pays au point que j'ai plus d'endroit où prêcher. J'ai prêché tellement dans ces pays que j'ai plus aucun endroit où m'arrêter. Alors, bien sûr, la population était moins concentrée qu'aujourd'hui, mais c'était quand même une vérité merveilleuse. Il avait tellement prêché, amen. Matthieu 24, 14. Alléluia! Dites, c'est mon année de la complétude. Ça, c'était Romains 15, 23. Le point, c'est nous accomplirons la prédication de l'évangile dans toutes les nations. Nous allons toucher l'entier des nations. Ça va être fait. Nous allons marcher dans cette plénitude. Vous allez faire partie de ça. C'est vous qui allez faire que la prédication va dans toutes les nations. À cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, ou pardon, dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Alléluia! Alléluia! Un jour, vous allez marcher avec Christ, un jour, vous allez marcher sur cette rampe qui va jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, et vous allez recevoir votre récompense pour ce que vous avez fait de votre vie sur terre. Ou pas, pour le coup, mais gloire à Dieu, dans cette église, nous allons tous recevoir une récompense. Amen! Parce que vous êtes tous sauvés, la question c'est quelle récompense allez-vous recevoir? Alléluia! Alléluia! Il y a de quoi se réjouir. Nous allons prêcher l'évangile avec une telle force que nos finances vont être foisonnantes, vous comprenez? Nous allons prêcher l'évangile avec une telle force que nous aurons une vie surnaturelle en tout point. Et nous allons grandir, grandir, grandir. Et nous aurons bientôt la convention sur les finances. Oh, si vous saviez, Si vous saviez, vous savez, un des problèmes économiques principaux dans ce monde, vous savez ce que c'est? Ça va vous faire sourire. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent sur deux points. Numéro un, il y a trop d'argent parce qu'ils produisent trop de monnaie et ça fait que les monnaies tombent. C'est un problème. Il y a trop d'argent dans ce monde. Numéro deux, il y a des gens qui ont trop d'argent et ne savent pas qu'en faire. Vous savez, vous pouvez acheter tant de vêtements. Hein. Au final, c'est un déploiement d'efforts qui est beaucoup trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne savent pas quoi faire de l'argent. Et de l'argent qui reste bloqué sur un compte sans rien faire coûte parce qu'il perd de la valeur tout le temps à cause de l'inflation naturelle. L'inflation en soi est quelque chose de sain si elle est à 1-2%. Hein. C'est quelque chose de bon. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand elle monte à 8, 9, 10, comme on l'a vu. Là, c'est un problème. Donc, il y a trop d'argent dans ce monde. On va parler de l'argent. Il faut qu'on parle d'argent. Amen. Alléluia. Donc, on était dans Matthieu 24, 14. Romains 11, 25 à 29. Vous savez, ça, c'est un principe biblique. On devrait appliquer la Bible comme elle est. Vous savez que bibliquement, quand une personne marche dans le péché, volontairement, je ne parle pas de tomber et de se relever, hein, même si on n'est pas censé tomber, mais parfois, il arrive que le chrétien fasse une erreur. Bibliquement parlant, la Bible est claire. Quand une personne fait un péché volontairement, vous la corrigez une fois. Ensuite, vous prenez deux ou trois personnes, vous la corrigez une fois. Et au bout de la troisième fois, si pour la même situation, elle refuse de changer, et je ne parle pas d'une personne qui essaie de changer et qui n'arrive pas, hein, vous voyez, qui a besoin d'aide. Je parle d'une personne qui refuse obstinément de changer, qui dit « non, je ne suis pas en tort ». Et bien là, vous l'exposez à l'église et la personne, ensuite, doit être considérée comme pécheur, ou pécheresse, ou pécheuse, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez un peu? On devrait commencer à appliquer ce genre de choses dans la Bible, dans la vie de Christ. Parce qu'il parle du péché, il parle de gens qui demeurent volontairement dans le péché. Je ne parle pas d'une personne qui dit « je sais que je suis dans l'erreur et j'essaie d'en sortir, ça me prend du temps, donne-moi du temps ». Ça, c'est complètement autre chose. Hein. Vous voyez? Vous savez, il y a des jours, on sait qu'on est dans l'erreur et on essaie d'en sortir. Amen. Ça nous prend un peu du temps des fois. Soyons patients avec nos frères et sœurs. Soyons patients avec eux. Vous savez, c'est marrant, mais j'en parlais avec Christelle. J'ai ramené quelqu'un à Christ il y a quelques temps. Et cette personne ne savait pas comment prier. Avait aucune idée comment s'adresser à Dieu. On ne peut pas, vous voyez, surtout nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, ne soyons pas durs avec des gens qui, par exemple, ne savent même pas comment prier. C'est normal, ils ne savent pas, personne ne leur a appris. Moi, il y en a un, il a donné sa vie à Jésus-Christ sans savoir que Jésus-Christ était vraiment mort sur la croix. Parce que le jour où Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Et il pensait simplement qu'à la fin, Jésus a fait payer son truc et que Jésus a fait « bon, c'est fini ». Puis il est descendu de la croix et c'était fini. Non, je dis non, il est mort, il est ressuscité. Il est là « ah ouais, je ne savais pas, waouh, ouais, wow, ok ». Vous voyez? Donc, ne soyons pas trop rapidement à juger. Amen. Regardez. « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère-ci afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. » Plénitude, littéralement, c'est le nombre exact. Donc, Dieu s'attend à ce qu'un nombre exact de personnes deviennent chrétiennes avant de revenir. Alléluia. Et nous allons rendre ce quota à Dieu au niveau de Lausanne. Amen. Un quota merveilleux, alléluia, alléluia. Dieu est au contrôle de votre vie, Dieu aime votre vie, Dieu vous a embelli, dites Dieu m'a embelli. Alléluia, alléluia. C'est quoi en fait, on ne va pas lire tout parce qu'on est en train d'avancer un petit peu. Quatrième point, tu peux préparer 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Angel qui fait un merveilleux travail pour les versets. Applaudissez fort. C'est aussi gênant que de chanter joyeux anniversaire, mon Dieu. Ok, quatrième point. Nous devons maintenant espérer, s'attendre au retour du Seigneur. Jésus-Christ revient. Oh, il revient, croyez-moi. Oh, il revient. Aucun doute. Regardez ce que la Bible dit. Nous devons maintenant espérer, s'attendre au retour du Seigneur. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Regardez, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est votre témoignage, ça. Et il dit ensuite au verset 8, « Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Jésus-Christ revient. Jésus revient. Attendez-vous à ça. Jésus-Christ est... » Le pasteur Christ a dit, il y a un compte à rebours qui commence là. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia! Quelle journée de gloire! On va être enlevé oh, comme ça d'un coup. On va rencontrer Jésus dans les airs et on sera avec lui pour toujours, la Bible dit. Alléluia! Alléluia! 1 Corinthiens 15, 52. Alléluia. Réjouissez-vous de ça. Préparez-vous pour ce jour. Vous savez, je suis conscient du fait qu'on ait les choses de la vie auxquelles on pense, notre carrière, nos études, toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que vous devez garder en tête, c'est que Jésus-Christ revient et un jour, vous serez devant lui pour célébrer ce que vous avez fait sur terre, pour célébrer le sacrifice qu'il a fait pour vous, pour célébrer la vie de victoire à laquelle il vous a appelé. Amen. Alléluia, regardons ce que la Bible dit. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Alléluia. Donc on va voir Jésus-Christ, pouf, on va être changé en lui, dans la même image exacte dans tout point. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Il y a de quoi vraiment se réjouir. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Dites, je me réjouis de la complétude. Dites-le encore, je me réjouis de la complétude dans laquelle j'ai commencé à marcher. Dites, je marche une marche triomphante. Je marche dans une parade de triomphe. Triomphale en tout point. Dites, je triomphe dans ma vie personnelle. Je triomphe dans le ministère que Dieu m'a confié. Alléluia. Regardez, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, ça veut dire avec un grand cri en fait, une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, il dit quoi ? Puis nous, les vivants qui demeurons, ça veut dire qu'ils sont encore là, nous serons ravis ensemble. Littéralement, c'est enlevés ensemble. Avec eux dans la nuée à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir la version LSG, Louis II, de ce même verset ? Donc, il dit qu'on va être enlevés. Alléluia ! Alléluia, ce jour arrive, frères et sœurs, réjouissez-vous parce qu'un jour vous allez être enlevés. Et ce n'est pas enlevé dans le sens « enfin ma pauvre vie nulle, je suis enlevé pour aller où ?» Non, c'est « Alléluia, j'ai accompli ce que Dieu m'a appelé à faire et maintenant je vais le voir pour toujours. » Quel genre de vie vivez-vous ? Dites « Je vis une vie de gloire. » Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons avec le Seigneur pour toujours. Nous serons assis avec lui d'une manière physique. Notre corps va être enlevé vers le ciel. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Vous êtes prêts pour ce jour ? Préparez-vous pour ce jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Si on peut préparer la Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia. Je pense que le jus de raisin est là-dedans. Ah, tu l'as déjà ? Oh, parfait. Alléluia. C'est votre année de la complétude. Amen. Donc, vous allez reconnaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Parce que c'est votre année de la complétude. Vous devez marcher dans la complétude que Dieu a pour vous. Amen. Répétez après moi. Je reconnais et je marche dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Dites, je marche dans la plénitude de Christ. Dites, nous accomplirons la prédication de l'Évangile dans toutes les nations. Et dites, j'espère maintenant. Et je m'attends au retour du Seigneur. Alléluia. Priez sur votre année. Bénissez votre année avec ces quatre.